quand je parlais d'engagement du romancier, je pensais davantage à l'engagement empathique. Parce que oui, si je reprends l'exemple de cette foule en Iran, No Comment, si le romancier prend une des figures qui se trouve là et lui donne la sœur de l'anonymat, la scène devient quelque chose de tout à fait différent.
On ne parle bien que de ce dont on est fraternel. Mais c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de commentaire idéologique dans ce livre. Si on soupçonne quelles sont les causes qui ont ma préférence, c'est parce que forcément, il n'y a pas moyen de ne pas le deviner. Mais ça n'est pas exposé, ça n'est pas asséné, ça n'est pas martelé avec une volonté militante quelconque. Et j'ai horreur de trouver ça dans un roman, je trouve que ce n'est pas sa place.
C'est pour ça que ce roman, Les bons offices, se relie de 20 ans à 20 ans, je dirais, puisque republié en 94.
Il vieillit pas. Oui, parce que s'il était captif d'une analyse, il n'y a rien qui vieillit aussi vite qu'une analyse.
Alors qu'on aurait pu craindre ce destin-là pour ce roman-ci, puisqu'il est ancré dans une réalité historique, dans une actualité historique.
Mais, vous savez, parfois j'ai traité le même sujet en commentateur, en analyste et en romancier. Je prends l'exemple du destin de Gottfried Benn. J'ai écrit des éblouissements sur Benn en le donnant à voir, comme je le vois. Et puis j'ai écrit par ailleurs un gros essai sur lui, où je le juge, où je le donne à voir à travers un jugement. Mais les deux textes sont tout à fait différents. Ils sont comme écrits par des écrivains différents. Et l'empathie ne se produit bien entendu que dans le roman. Et à la limite, pour en apprendre plus long sur Benn, il vaut mieux lire le roman que l'analyse.
Revenons aux bons offices et à un angle d'attaque que j'aimerais vous proposer, qui est l'angle d'attaque de l'inclusion du personnage de fiction dans l'histoire avec un grand H. Et à nouveau, vous nous surprenez dans ce roman en inventant un personnage qui incarne l'histoire, qui est cette Madame Bouvard, qui est au service de l'information et bibliothèque de l'organisation, puisque jamais elle n'est citée, et qui découpe le monde dans les journaux. En fait, elle est chargée de faire une sorte de revue de presse où elle découpe des articles, mais suivant un ordonnancement tout à fait aléatoire, soit par les noms, soit par les pays, soit... Et elle ne sert absolument à rien, mais, et là je vais lire, si vous voulez bien, un petit extrait sur son travail et sur la manière dont finalement elle incarne l'histoire. Sans chute, du moins sans convaincu, un jour, qu'ayant ouvert la porte de la bibliothèque aux fenêtres toujours closes, il s'avisa qu'en outre Madame Bouvard sentait mauvais. Oh, ce n'était peut-être là qu'une vieille femme qui ne se soignait pas, rien de plus. Pourquoi donc, bons offices, ajoutant cet élément à tous les autres, en fut-il bouleversé? Voilà pourtant où ses réflexions sur Madame Bouvard l'avaient insidieusement menée de fil en aiguille. Cette femme, qui subissait sans les comprendre les incidents les plus lourds de conséquences dont chaque jour la planète était le théâtre, ne charriait-elle pas dans son âme déjà infirme, dans sa chair putride, tous les poisons que le cours des choses draine depuis toujours avec lui? L'haleine fétide qu'elle lui souffla au visage, il crut bien cette fois la reconnaître et ne pas s'y tromper, n'était-ce pas tout bonnement celle de l'histoire? Alors là, c'est un fulgurant dans la manière d'incarner dans un personnage comme celui-là et d'arriver en fin de parcours, en fin de phrase, à avoir effectivement, c'est l'haleine fétide de l'histoire qui s'incarne en elle.
Oui, c'est une... C'est l'incarnation. Moi, je suis très sensible aux incarnations. Je crois que nous sommes traversés par des messages que nous ne maîtrisons forcément pas, dont nous sommes la plupart du temps complètement inconscients, mais qui peuvent être perçus par autrui comme des révélations, comme des fulgurances, comme ça. Et ce personnage, au fond, assez pathétique, d'une vieille documentaliste à qui qu'on a chargé de cette tâche à la fois nécessaire et absurde, de découper dans les journaux toutes les catastrophes, tout le récit des catastrophes, le récit des antagonismes politiques, mais aussi, je dirais, les moindres faits divers, mais qui, au fond, n'a aucune clé de tout ça. Elle ne sait pas pourquoi on lui a demandé ça. Elle ne connaît les raisons de découper des articles sur le Proche-Orient. Elle n'en connaît pas la clé. Elle ne sait pas que ce qui intéresse les chercheurs qui vont se pencher sur ces articles sont des gens qui s'impliquent dans ces événements. Pas du tout. Elle pense que voilà, ce sont des histoires qui s'équivalent toutes. Donc le moindre fait divers et la plus grande catastrophe cohabitent dans son esprit, dans un nivellement absolu. Elles sont à la fois... Leur seul point commun, c'est d'être contemporaines. Mais à part ça, il n'y a rien de commun. C'est hors de proportion. Et elle ne comprend rien à ce qu'elle fait. Donc elle se livre à un travail complètement dans l'opacité, dans la confusion d'esprit, elle réagit à des mots de façon pavlovienne, comme ça. Elle se met à saliver. Enfin, et puis voilà, elle découpe. Et je la donne à voir comme immergée dans cet océan d'informations, le plus souvent dramatique et tragique et funèbre, et comme ne pouvant pas s'en laver, puisqu'elle ne sait pas de quoi elle aura à se laver, en plus. Elle ne passe pas, il n'y a pas une douche miraculeuse pour la nettoyer de tout ça. Elle est comme souillée en permanence par tous ces mots chargés du pire qu'il y a dans l'histoire, et donc, d'une certaine manière, elle pue comme histoire elle-même. Oui.
Et ce qui est très fort, c'est qu'elle ne comprend pas la hiérarchie dans l'importance des événements, puisque par exemple, Kennedy, pour elle, c'est l'inconvénient d'avoir beaucoup d'articles de presse. Voilà. Mais l'événement en lui-même n'a aucune importance.
Rien ne lui dit rien. Donc elle n'est au courant de rien, elle est d'une innocence totale, au sens strict du terme. C'est un personnage presque dostoïevskien, quoi. Elle a une candeur, une ingénuité absolue dans l'histoire. Tout ça s'équivaut. Tout dans son esprit, tout se vaut. Tout se vaut, donc... sa tâche, c'est uniquement d'aller de A à Z, et elle ne voit pas que S est plus important que T, ou que B, que C, mais tout ça intéresse son entourage. Bon, ben, elle les découpe, elle les colle, elle les affiche. Pour elle, ça n'a aucun sens. Ce n'est jamais incarné, justement. C'est purement abstrait.
Et là, la question qui survient en parallèle à ce personnage est celle de quel est le rôle de la fiction pour donner du sens à l'histoire. Parce que finalement, en double lecture, on arrive à cette question-là que le romancier peut se poser lorsqu'il invente un personnage comme cette Madame Bouvard. Comment la fiction donne-t-elle des clés à l'histoire que l'histoire ne peut pas fournir elle-même ?
Je ne suis même pas sûr que la fiction donne du sens, simplement elle montre qu'il y a un sens. Mais est-ce que c'est le sens de l'histoire, comme on le disait majestueusement encore dans les années 50, on abandonne ce genre d'expression toute faite qui sont la langue de bois finalement. Mais il doit bien y avoir un sens et il faut continuer de s'interroger à son sujet. Mais est-ce qu'on en découvrira jamais la clé, c'est une autre histoire. Et je crois que le privilège et les limites de la fiction, c'est qu'elle donne à voir l'épopée de cette interrogation et son côté tragique, son côté presque shakespearien, parce que le théâtre, évidemment, donne à voir ça aussi par d'autres moyens. C'est plein de points d'interrogation, un vrai roman. Il y a beaucoup plus d'interrogations que de trois petits points et de points d'exclamation. Un roman qui ne serait qu'affirmatif, plein de certitudes, d'une absence de doute paralysante, à mon avis, échouerait complètement, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas s'y reconnaître, parce que nous sommes pétris par le doute, et des doutes d'ailleurs extrêmement féconds. Quelqu'un qui ne se laisse pas gagner par le doute, à mon avis, passe à côté de sa vie. Ce sont nos questions qui nous forgent beaucoup plus que nos réponses. Nos réponses sont toujours partielles, sont toujours fragmentaires, sont toujours surtout à renouveler tout le temps, elles sont toujours inachevées. Tandis que nos doutes, quand ils sont bien exprimés, nos incertitudes, peuvent avoir un caractère éternel, mais qui nous sculpte. Moi, je sais que je nourris des doutes qui me construisent davantage que les quelques certitudes que j'ai acquises avec le temps, et qui sont toujours à devoir être reprouvées tôt ou tard, quoi, remises en question.
Dans le roman Les Bons Offices en particulier, la dimension liée au questionnement permanent se trouve aussi dans la manière dont le roman est construit. Parce qu'on a, on peut pas dire que c'est un roman éclaté, le roman a une cohérence de lecture, donc il faut pas décourager le futur lecteur. Ça, on entre dedans et il est très organisé. Mais il est organisé en utilisant un assemblage comme une mosaïque, et avec le recul au moment où on tourne la dernière page avec ces trois points de suspension justement sur la vie, on se dit on a vu une vision d'ensemble faite de morceaux. Comment est venue la construction stylistique chez le romancier ?
C'est un montage cinématographique. C'est un montage cinématographique ou bien c'est un côté partition musicale. C'est un livre très rythmé. C'est un livre, c'est pour ça que c'est un livre très sonore. C'est un livre qu'on peut lire tout. On s'est livré d'ailleurs il y a quelques années une expérience qui était extrêmement risquée, c'est de le lire en entier, je crois que ça a pris 3 jours et demi, au théâtre poème. C'était une des idées magnifiquement farfelues et grandioses de Monique Dorcel. On avait passé d'un vendredi, un samedi et un dimanche à une cinquantaine, je crois, et on lisait tour à tour. Et puis le dimanche midi, on s'était gaillé au bois de la Cambe, il faisait très beau, c'était le début de l'été. Et chacun sortait d'un fragment des Bons Offices et poursuivait une lecture comme ça jusqu'au bord du lac, quoi. Mais des nuits entières, déjà, on avait lu ce livre et ça m'avait... Bon, au départ, j'étais extrêmement inquiet de ce projet. Je le trouvais très donquichotesque, justement. Mmh. Et puis pas du tout, parce que chacun avait fait son choix du fragment auquel il pensait ressembler le plus, où il s'identifiait le mieux. Et donc, toutes ces lectures étaient faites avec ferveur et avec empathie, justement. Comme si, d'une certaine manière, chacun en avait été l'auteur partiel. Et donc, sa musicalité apparaissait. Pas seulement parce que je crois que c'est... Il est... Moi, quand une prose n'est pas musicale, je n'arrive même pas à lire. Même si je soupçonne que le message est intéressant, ça m'est égal. Si ça ne sonne pas, je n'entends rien. Je suis sourd à une espèce de forme de platitude, comme ça. C'est inguérissable. Ça comporte un danger, c'est que j'ai parfois été séduit par des livres qui, au fond, ne me disaient pas grand-chose de profond, mais qui étaient tellement sonores que leur musique m'épatait.
Alors, ce que vous venez d'évoquer, on retrouve d'ailleurs Flaubert et Cervantes. Évidemment. Flaubert et son Gueule Noire, et Cervantes, où des lectures de Quichotte ont lieu régulièrement.
Ouais. Oui, exactement, oui, c'est vrai. Ben, entre Cervantes et Flaubert, il y a plus d'un point commun. Hein. L'un est le fils de l'autre. Hein. Et comme par hasard, il raconte l'histoire de gens qui ont de mauvaises lectures. Ouais. Des romans d'amour à deux sous et des romans de chevalerie qui n'ont aucun intérêt. Et c'est ces mauvaises lectures qui produisent dans les deux cas un chef-d'œuvre. C'est assez hallucinant, ouais, comme trouvaille.
Un autre élément qui vous est propre, me semble-t-il, et je reviens à une des premières questions concernant la réalisation d'un film de fiction en parallèle avec l'écriture de ce livre, c'est le cinéma. On trouve le cinéma quasi permanent dans l'évocation du personnage. Il y a des films qui ne parviennent pas à voir.
Et le cinéma et la musique, ce sont les deux arts auxquels, d'une certaine manière, on est chaque fois renvoyé.
Mais dans le cas du cinéma, on se rend compte, en lisant Les Bons Offices, que le cinéma, pour les personnages de cette époque-là, a une autre dimension, a une autre portée, comme si on parlait d'un art qui n'existe plus aujourd'hui et qui existait à l'époque.
Oui, c'est comme un art défunt, c'est un art muséographié, c'est un musée imaginaire. C'est une espèce de musée du cinéma. D'ailleurs, les plus belles émotions de spectateurs que j'ai dans ma vie, c'est au musée du cinéma, en partie parce que c'est un vrai musée. Parce qu'on va là pour voir une exposition. Ce n'est pas l'actualité, c'est déjà ce qui est dans l'histoire. Donc on va comme au musée. On va là comme on va au musée d'Orsay, quoi. On va voir des films au lieu de voir des tableaux de maître, mais l'émotion est la même. Parce que l'émotion qu'on peut éprouver dans un musée n'est pas la même que quand on va à un vernissage d'exposition, même si elle est très belle. Donc il y a un tel accompagnement du XXe siècle par le cinéma, puisque c'est un art du XXe, que forcément beaucoup de références intellectuelles pour les personnages, et je dirais même biographiques, ont rapport au cinéma. C'est au cinéma qu'ils ont éprouvé des émotions qui les renvoyaient à eux-mêmes, qui éclairait tant soit peu l'histoire qu'ils étaient occupés de vivre et qui tentait là aussi de donner un sens, une signification.
Pierre Mertens, la dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, parce qu'on va quand même, on pourrait continuer, mais on doit arrêter à un moment donné. J'aimerais vous soumettre deux comparaisons qu'on a souvent fait, ou deux apparentements qu'on a souvent fait, pour l'un en tout cas, entre Les Bons Offices et le roman de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan. Et j'ai lu dans plusieurs des articles qui vous étaient consacrés que Malcolm Lowry, la lecture d'Au-dessous du volcan vous avait marqué. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de nourrissement, pour un néologisme, qui vous a été donné par cette lecture-là, et de quelle façon?
Les Bons Offices, c'est pratiquement écrit en entier quand j'ai lu Au-dessus du volcan. Mais ça m'a forcé à le terminer avec plus de force. Parce que je me suis senti comme porté par ce projet m'a été écrit dans un, je dirais pas le malaise, mais dans le doute, puisqu'on parlait, on parlait du doute il y a un instant, dans certains moments quand même de panique où je me disais, mais ce roman, où me mène-t-il? Il me mène par le bout du nez, mais jusqu'où? Et est-ce que je ne vais pas droit dans le mur, quoi? Et quand, près de l'achever, je suis tombé sur ce chef-d'œuvre absolu qui est Au-dessous du volcan, qui est pour moi un des 4 ou 5 romans de l'histoire de la littérature qui vont rester, je vais jusque-là. Avec La recherche du temps perdu, avec L'homme sans qualité, avec La métamorphose, voilà. On pourra en citer 2, 3 autres, évidemment, avec Les palmiers sauvages, Faulkner, ou Le bruit et la fureur, enfin bon. Avec Ulysse, peut-être aussi. Enfin bon.
Un jour, il faudrait faire votre bibliothèque idéale pour, oui, oui. Pour qu'on puisse en.
Elle a été faite 2, 3 fois, d'ailleurs. Elle n'est jamais 2 fois la même, d'ailleurs. Ah, oui. Voilà. Parce qu'il faut changer parfois. Il faut changer de chef-d'œuvre.
En plus, les nouveaux doivent trouver leur place aussi.
Hein. Sinon, c'est trop injuste. Voilà. Hein. C'est réifié, comme ça, une fois pour toutes. Oui. Alors. Alors voilà. Laurie est peut-être effectivement l'écrivain dont je me suis senti le plus proche. Le plus incroyablement proche, parce que j'étais bouleversé par Kafka, j'ai été sidéré par Proust, j'ai été extraordinairement agité par L'homme sans qualité, mais j'ai été vraiment submergé par Au-dessous du volcan, comme d'une œuvre que je n'aurais pas cru possible, et qui montrait ce que pouvaient être les possibilités du roman tel que je le rêvais.
L'apparentement que j'aurais voulu.
L'influence que ce livre a exercé est de cet ordre-là. Sur un autre plan, bon, on peut évidemment imaginer une errance. Il y a sur son personnage complètement errant. Moi, le mien n'est pas un alcoolique, mais il pourrait l'être. Il est ivre de l'histoire. Lui, il se shoot à l'histoire. Il ne se shoot pas au mezcal ou à la tequila, mais il se shoot à l'histoire. C'est l'histoire qui l'enivre sans cesse. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est incapable de la maîtriser vraiment, c'est qu'il est toujours en état d'ébriété par rapport à elle. Il est comme rendu fou et en tout cas complètement enivré par cette histoire, puisqu'il n'en perçoit pas le sens, mais il en perçoit tout le temps l'intensité. C'est terrible quand on perçoit l'intensité d'un événement sans en connaître la signification. Donc c'est un... Je n'avais jamais pensé, mais c'est un grand alcoolo de cette nature-là. Quoi.
Comme quoi, dans ces entretiens, on peut découvrir aussi des nouvelles dimensions.
Ça, d'ailleurs, tantôt triste et tantôt joyeux.
L'autre apparentement auquel j'ai songé, mais sans aller plus loin, sans l'avoir validé d'une manière ou d'une autre, en terminant la lecture du livre, c'était la pensée complexe d'Edgar Morin. Est-ce que, d'une certaine manière, Les bons offices n'est pas le pendant du travail qu'Edgar Morin a mené sur la complexité des choses, sur la complexité de l'humain, sur la complexité qui rend si impossible la compréhension du monde? Mais la complexité faisant partie de cette démarche-là de l'humanité.
Ah, ça pourrait être le cas. Il faudrait demander à Morin que j'ai rencontré. Oui, mais je veux dire, on est nombreux. Hein. La complexité des choses, on a été nombreux à la mettre en valeur, chacun selon ses moyens, chacun selon son esthétique, je dirais presque. Chacun selon ses désirs et sa vocation propre. Mais de fait... C'est ce qu'il y a de plus passionnant, c'est montrer l'épaisseur des choses. Si c'est se vouer à la clarification que de l'appauvrir, que de la réduire, que de la simplifier, que de la caricaturer, ça n'a aucun intérêt. Mais rendre compte plus courageusement de l'opacité des choses, de leur épaisseur, de leur énigme, du poids de leur énigme, je crois que c'est mieux. Parce que nous avons besoin beaucoup plus de questions que de réponses, contrairement à ce qu'on croit. Vous savez, il y a ce passage de la Bible où il est dit, on voit comme dans un miroir confusément ou obscurément. Il y a 2 traductions. Celle de la préférée pour moi de Le Maître de Sacy dit confusément. Le Maître de Sacy, c'est vraiment... Ça, c'est un homme dont j'aimerais un jour parler. C'est la traduction de la Bible par Le Maître de Sacy, je trouve ça bouleversant, parce que ça restitue à ce livre extraordinaire toute sa force et sa beauté. Eh bien, il parle de...
Et cela tient à quoi si on parle traduction, ça tient à quoi?
On m'a parfois dit que c'était une belle infidèle, mais je n'en crois rien. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, il doit être plus proche de la lettre, mais qu'il en restitue la magie et la beauté. Quoi. Sans quoi, il y a des traductions de la Bible qui en font un thriller métaphysique assommant. Et brutal et presque incompréhensible et très plein. Vous pouvez pas lire une seule page de la Bible par le maître de Sassy sans que ça chante comme un poème, hein. C'est avec les côtés presque rimbaldiens. Enfin, là, on s'égare un peu, mais...
Non, oui. Mais... Il faut s'égarer aussi, ça, oui, ça fait partie finalement de la complexité des choses, finalement. Hein, oui. Ça fait... Pierre Mertens, on va arrêter ici cet entretien. Je vous demanderai de vous livrer un petit exercice ensuite, qui est d'enregistrer, de lire, oui. Pour que je les enregistre, quelques extraits du livre qui illustreront cet entretien. Et ben moi, je forme le vœu qu'on se revoie et qu'on refasse cet exercice pour de prochains rendez-vous.
Soudain, comme dit mon ami Pietro Pizzuti. J'adore tout ça. Je te revois à bientôt, soudain.
C'est très beau. Oui. À bientôt, soudain. À bientôt, soudain.
Les rencontres d'Edmond Morel.